Ce n'est pas à leur création que les empires souffrent de ne pas avoir de but, mais plus tard, lorsqu'ils sont fermement établis et que les objectifs sont oubliés et remplacés par des rites sans fondement. Extrait de L'Édit de Muad'Dib par la princesse Irulan. Alia songeait que cette session du Conseil impérial allait être pénible. Certains détails lui révélaient l'accumulation des forces. La façon dont Irulan évitait de regarder Shiny, les gestes nerveux de Stilgar qui ne cessait de brasser des papiers, les regards sombres de Paul à l'adresse de Korba le Kwisara. Alia avait pris place à une extrémité de la table d'or. De là, elle pouvait apercevoir le balcon baigné de la clarté poudreuse de cette fin d'après-midi. Korba, qui dialoguait avec Paul et qui s'était interrompu à son arrivée, reprit. « Ce que je veux dire, monseigneur, c'est que les dieux ne sont plus aussi nombreux qu'ils l'étaient à une certaine époque. » Alia éclata de rire. Elle rejeta la tête en arrière et comme le voile noir de sa robe à bas glissait, son visage apparut. Sous sa chevelure couleur de bronze, ses traits étaient ovales, son nez petit, sa bouche large. Ses yeux avaient le bleu de l'Ibad. Les joues de Korba devinrent presque aussi oranges que sa robe. Il foudroya Alia du regard. Minuscule et chauve, il ressemblait en cet instant à quelque gnome furieux. « Savez-vous ce que l'on dit de votre frère ? » demanda-t-il.
« Je sais ce que l'on dit de vos Kwisarat, » rétorqua-t-elle. « Que vous n'avez rien de divin, que vous n'êtes que les espions de Dieu. »
Korba jeta un regard en direction de Paul, quémandant son soutien.
« Nous sommes les envoyés de Muad'Dib, qui doit savoir la vérité de son peuple afin que son peuple sache sa vérité. »
« Des espions !» répéta Alia.
Korba se tut, retroussant les lèvres. Paul regardait sa sœur et se demandait pour quelle raison elle provoquait ainsi le panégyriste. Tout soudain, il s'apercevait qu'elle était devenue une femme, qu'il ne restait en elle qu'une trace de l'enfance, juste assez pour rehausser sa beauté. Il était surpris de n'avoir pas encore pris conscience de cela. Elle n'avait que 15 ans, bientôt 16. Une révérende mère sans enfant. Une prêtresse vierge redoutée et vénérée par les masses superstitieuses. Alia du couteau.
Ce n'est ni le lieu ni l'heure pour entendre les sarcasmes de votre sœur, dit Irulan.
Paul ne lui prêta pas la moindre attention et hocha la tête à l'adresse de Korba. La place est pleine de pèlerins. Sortez et invitez-les à prier.
Mais, monseigneur, c'est vous qu'ils attendent. Dit Korba.
Alors mettez votre turban. À cette distance, ils ne verront pas la différence. Irulan chassa son irritation et son regard se posa sur Korba qui s'apprêtait à obéir et à quitter la salle. Il lui vint soudain la pensée troublante que, peut-être, Edric ne pouvait empêcher Alia de connaître ses agissements.
Mais que savons-nous vraiment d'elle ? Se demanda-t-elle.
Shiny, les mains serrées dans son giron, regarda Stilgar, son oncle, de l'autre côté de la table, ministre d'État de Paul. Le vieux Naïb Fremen regrettait-il encore l'existence de son siège du désert, songeait-elle. La noire chevelure de Stilgar était à présent marquée de gris, mais ses yeux, sous ses épais sourcils, restaient aussi perçants. Il y avait encore un peu de la vie sauvage de Dune dans ce regard. De même que la trace des filtres du distille était encore visible dans sa barbe. Stilgar, rendu nerveux par cet examen prolongé, promena son regard sur la chambre du conseil. Il le fixa sur le balcon où Korba leva les bras pour bénir la foule. Le soleil posait un halo rouge sur la fenêtre. Et durant quelques secondes, Stilgar eut l'impression que le Kwisara de la cour était écartelé sur une roue de feu. Puis Korba baissa les bras et l'illusion disparut, laissant Stilgar empli d'un trouble étrange. Il éprouvait une colère sourde envers les fidèles soumis qui devaient attendre en cet instant dans la salle des audiences, envers toute cette pompe haïssable qui entourait en permanence le trône de Muad'Dib. On en venait à espérer une faute de l'empereur, une occasion de mettre ses faiblesses en évidence, se dit Stilgar. Il avait conscience du caractère sacrilège d'une telle pensée, mais ne pouvait la repousser. Korba regagna la salle,
et le murmure de la foule fut perceptible pendant une seconde, avant que la porte se referme sur ses joints. Le Kwisara regagna sa place, suivi par le regard attentif de Paul. Il s'assit à la gauche de l'empereur. Son visage sombre avait une expression placide, mais le fanatisme brillait dans ses yeux. Il avait savouré cet instant de pouvoir religieux. « La présence de l'esprit a été invoquée, » dit-il.
« Le Seigneur en soit loué, »
dit Alia. Les lèvres du Kwisara devinrent blêmes. À nouveau, Paul observa sa sœur et s'interrogea sur ses motivations. Il se dit que sa candeur dissimulait quelques tromperies. Elle était comme lui un produit de la sélection Bene Gesserit. Quels avaient pu être sur elle les effets du programme de recherche du Kwisatz Haderach? Il fallait tenir compte d'une différence subtile. Elle se trouvait encore dans la matrice lorsque sa mère avait subi l'épreuve du poison d'épices. Elle était devenue une révérende mère dans le même temps que sa mère, mais cette simultanéité ne signifiait pas identité. De cette expérience, Alia lui avait dit qu'en un instant terrifiant, elle s'était éveillée à la conscience, que sa mémoire avait absorbé les innombrables vies précédentes assimilées par sa mère. « Je suis devenue ma mère et bien d'autres femmes encore », lui avait-elle dit. « J'étais sans forme, sans nom, mais j'étais déjà une vieille femme. » Devinant ses pensées, Alia lui sourit et l'expression de Paul se fit plus douce. Mais comment réagir à la présence de Corba, sinon par de l'humour cynique, se dit-il. Peut-il y avoir quelqu'un de plus ridicule que ce commando de la mort transformé en prêtre? Stilgar prit ses papiers.
Si Monseigneur me le permet, des questions réclament son attention urgente.
Le traité de Tupili? Demanda Paul.
La guilde prétend que nous devons signer le traité sans connaître avec précision la situation de l'entente de Tupili, dit Stilgar. Elle est soutenue en cela par quelques délégués du Landsrad.
Quelle pression avez-vous exercée? Demanda Irulan.
Celle-là même que mon empereur m'avait assignée pour cette tâche, dit Stilgar, avec une courtoisie pleine de raideur qui ne cachait rien de sa désapprobation.
Monseigneur et époux, dit alors Irulan en se tournant vers Paul, forçant ainsi son attention.
Elle met l'accent sur le titre à cause de la présence de Shiny, se dit Paul. C'est là une faiblesse. En de tels instants, il ne pouvait s'empêcher de partager l'antipathie de Stilgar pour Irulan. Pourtant, une certaine forme de pitié tempéra ses émotions. Qu'était la princesse, sinon un pion entre les mains du Bene Gesserit?
Oui, demanda-t-il. Si vous leur retirez le mélange, Shiny secoua la tête.
Nous prenons garde, dit Paul.
Tupili demeure le sanctuaire des grandes maisons vaincues. Elle est la planète du dernier refuge, le symbole de la sécurité pour tous nos sujets. Il suffit d'exposer le sanctuaire pour le rendre vulnérable.
Si Tupili abrite des gens, elle abrite sans doute autre chose, grommela Stilgar. Peut-être une armée, ou les premières bases d'une culture de mélange qui...
On n'accule pas les gens dans un coin, dit Alia. Pas si on attend d'eux qu'ils demeurent paisibles.
Elle s'aperçut avec une certaine tristesse qu'elle se mêlait aux affrontements qu'elle avait pressentis.
Ainsi, nous aurions négocié pendant 10 années pour rien, dit Irulan.
Mon frère n'agit jamais en vain, rétorqua Alia.
Irulan prit un stylet. Paul remarqua ses jointures blanches. Elle maîtrisait ses émotions en véritable Bene Gesserit. Regard intérieur et pénétrant, respiration profonde. Il pouvait presque l'entendre réciter la litanie. Elle demanda enfin,
« Et qu'avons-nous gagné ?»«
Nous avons maintenu la guilde en déséquilibre, » dit Shiny.
« Notre désir est d'éviter une confrontation ouverte avec nos ennemis, » reprit Alia. « Nous ne voulons pas les tuer. La bannière des Atreides a flotté sur de trop nombreux carnages. »
Elle aussi ressent cela, se dit Paul. Il était étrange qu'ils éprouvent dans le même temps le même fardeau de responsabilité envers cet univers idolâtre et violent, partagé entre ces moments d'extase tranquille et de mouvements sauvages. devons-nous donc les protéger d'eux-mêmes? Ils jouent avec le néant, avec des existences vides, des mots vides. Ils me demandent trop. Il avait la gorge serrée. Combien de moments perdrait-il encore? Quel fils? Quel rêve? Cela valait-il le prix que lui avait révélé sa vision? Qui poserait la question aux lointains habitants du futur? Qui leur dirait « Sans Mouad Dib, vous ne seriez pas ici ?»
On ne résoudra rien en leur refusant le mélange, dit Shiny. Les navigateurs de la guilde perdraient leur faculté de voir à travers l'espace-temps. Vos sœurs du Bene Gesserit ne pourraient plus avoir leur transe de vérité et bien des gens pourraient trouver la mort avant leur temps. Les communications seraient interrompues. Et qui serait le coupable?
Il ne permettrait pas cela, dit Irulan.
Non? Pourquoi pas? Qui pourrait en vouloir aux gens de la guilde? Ils seraient impuissants.
Nous signerons le traité tel qu'il est, intervint Paul. Monseigneur, fit Stilgar en concentrant son regard sur ses mains. Une question subsiste en nos esprits.
Oui, quelle est-elle?
Vous disposez de certains pouvoirs. Ne pourriez-vous localiser l'entente de Tupili malgré la guilde?
Pouvoir, se dit Paul. Stilgar aurait dû dire, vous êtes prescient. Ne pouvez-vous trouver dans l'avenir le chemin qui conduit à Tupili?
Les yeux de Paul se fixèrent sur la surface dorée de la table. Le même problème se reposait constamment. Comment exprimer les limites de l'inexprimable? Devait-il leur parler de la fragmentation, destinée naturelle de tout pouvoir? Comment quiconque n'ayant jamais connu la prescience de l'épice pouvait concevoir une forme de perception où l'espace-temps n'était pas localisé? Une perception sans vecteur d'image personnelle, ni récepteur sensoriel.